Ouais, salut Jean-Pierre, je viens de t'écouter à la radio, là, tu viens de passer sur Inter, là, ce matin. Dis donc, t'as dit que le pognon appartenait aux Français, quand c'est que tu me rends le mien, s'il te plaît? Parce que je suis un petit peu dans la merde en ce moment, alors tu pouvais m'envoyer un petit chèque. Allez, merci Jean-Pierre.
Salut Daniel, j'ai regardé hier soir sur Arte une émission sur la torture en Irak, et j'avais entendu déjà ton émission la semaine dernière sur la torture en Algérie. Et je suis quand même extrêmement frappée par la similitude des faits. Dans les deux cas, ben, c'est des soldats qui pratiquent la torture, qui déclarent avoir reçu des ordres. Les officiers, eux, ils disent que c'est des cas isolés de personnes sadiques et qu'en aucun cas ça engage toute l'armée. Les officiers supérieurs sont pas vraiment au courant, les politiques sont bien sûr scandalisés. Et puis quand on regarde ça, les preuves des faits, on se rend compte que ben, le politique a donné les pleins pouvoirs à l'armée en Algérie, que l'officier de Guantanamo a été chargé d'obtenir des renseignements dans la prison d'Irak. Et puis, le rapport du CICR, eh ben, ils n'ont pas lu, ou ils n'ont pas eu le temps de le lire, ou ils ne sont pas au courant, alors que ça fait des mois que le comité de Croix-Rouge fait des rapports. Et puis, si je me souviens bien, il me semble que les méthodes de torture qu'on a utilisées en Algérie ont été exportées en Argentine, encadrées par des gens de l'armée française. C'est ce qu'il me semble avoir lu dans la presse à certains moments. Et bien, je me dis que finalement, la dilution des responsabilités, c'est bien pratique, parce que personne n'est coupable, du coup, puisque tout le monde l'est un peu, personne ne l'est vraiment. Et puis, je me pose une autre question un peu plus globale, c'est que je me dis que finalement, l'humiliation des vaincus a toujours fait partie des joies des vainqueurs dans l'histoire de la guerre, et que finalement, c'est qu'un perpétuel recommencement de l'histoire de l'humanité. Et ça me rassure pas vraiment. Allez, c'est Lise d'Auvergne. Au revoir.
Bonjour, là-bas, si j'y suis. Juste une petite remarque, après la palme d'or de Michael Moore, on est tous là à crier bravo, super et tout, mais en Europe et en France, on est incapable de faire la même chose. Pourtant, il y a Chirac au pouvoir avec toutes ses casseroles, il y a toutes nos sociétés, tous nos lobbies de l'armée qui font de belles saloperies en Afrique et ailleurs. Il y a plein de beaux sujets aussi pourris que la politique de Bush en Europe. Hein. Alors pourquoi on le fait pas? On n'est pas capable de le faire. On n'a pas l'argent. Les chaînes de télé ne veulent pas le faire. Je sais pas. On est peut-être moins efficace qu'un bon Américain. À bientôt.
Salut Daniel. Ici c'est René Grosseret de Tour. Je te remercie beaucoup pour le reportage que tu as fait à qui la campagne sur cet Allemand qui est venu rapporter le jambon qu'il avait pris à une fermière de qui la campagne 50 ans plus tôt. J'ai d'autant plus touché que je connais bien cette région. Salut Daniel et merci encore.
Bonjour, c'est Alice de Lille. Je voulais vous raconter l'histoire de Constant, un paysan franc-comtois aujourd'hui décédé, et qui avait été fait prisonnier pendant la guerre. Comme il était fort, il a été affecté à des travaux de terrassement, puis il a été transféré au travail d'une ferme à la frontière franco-allemande. Il y a quelques années, sa fille l'a amené dans cette ferme pour revoir cette fermière, celle qui cachait à ses risques et périls de la nourriture pour la lui donner. Quand ils se sont revus, ils se sont reconnus immédiatement et ses deux vieux petits-enfants se sont mis à pleurer. Mais il n'y avait pas de journaliste, alors je voulais seulement leur rendre hommage dans l'autre sens que celui de l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui d'un Français qui est allé en Allemagne. Au fait, merci mesdames.
Comme vous le savez, en Normandie, des centaines d'initiatives ont à juste titre célébré le 60e anniversaire du débarquement, qui, selon les discours officiels, ne doit oublier personne. Des millions d'euros vont être dépensés pour valoriser ces initiatives. Un seul événement ne sera pas commémoré officiellement, l'internement des Tziganes du 11 avril 1941 au 8 octobre 1942 dans un camp créé sur la commune de Barenton dans la Manche. Depuis 1997, le MRAP se bat pour qu'une stèle rappelant cette atteinte aux droits de l'homme soit implantée. Nous n'y sommes pas parvenus, l'État se déclarant incapable de tenir ses engagements concernant le financement des travaux imposés par la DDE. Contre un oubli intolérable de la mémoire, le MRAP organise le 27 mai à 17h30, sur les lieux de l'ancien camp, un dépôt de gerbes en souvenir des Tziganes internés déportés et victimes du génocide. conseiller régional et conseiller général seront représentés, et diverses associations des gens du voyage et de défense des droits de l'homme s'associeront à l'hommage. Que le préfet de la Manche ne soit ni présent ni représenté, tout comme l'absence de nos tables locaux, mais mal à l'aise. Nous serons donc quelques-uns, militants discrets, à nous souvenir et à ne pas oublier que des enfants, des femmes, des hommes ont été internés derrière des barbelés, sous la garde de gendarmes français en armes, cela simplement parce qu'ils appartenaient à une population dite dangereuse et indésirable. Si vous passez le 27 mai dans cette Normandie profonde, venez nous rejoindre. Vous nous aiderez à rappeler que la France de Vichy, aux ordres des nazis, a interné des nomades. 60 ans après le refus de donner une place officielle à ce drame lors des cérémonies officielles, commémorant le débarquement, traduit-il que pour certains, ce fut une mesure salutaire. Ainsi, 60 ans après le combat pour la mémoire et l'égalité, dans le souvenir des souffrances vécues, il reste à gagner.
Il reste à gagner. Voilà, de superbe message sur le répondeur de la basse, j'y suis. Dans les semaines qui viennent, le jour qui viennent, on va évoquer le débarquement, donc on va à nouveau se plonger dans notre histoire, la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, on va parler de la résistance. Et ben nous, on va tout de suite parler de la résistance, mais pas seulement de cet épisode, mais de l'esprit de résistance, à travers un homme, avec un homme qui a vécu, qui est un très grand résistant, mais qui va remettre presque le XXe siècle en perspective, enfin dans sa perspective à lui. C'est un des plus grands penseurs français, philosophe, une très grande lumière, un homme qui a renouvelé l'approche de la pensée de la Grèce ancienne et qui a été engagé dans ce 20e siècle et qui est toujours engagé dans ce 21e siècle. C'est Jean-Pierre Vernant, aujourd'hui 90 ans passé, oui, depuis quelques mois, et avec qui on va passer cette heure entière. Ça va être une heure vraiment de jubilation. Je vous le promets. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur. 01 56 40 37 37.
Ouais, salut Daniel, c'est Guillaume de Montpellier. Je t'appelle parce que je suis en train d'écouter le Premier ministre. Et alors, c'est assez étonnant parce que ça recommence. Il oppose idéologie et pragmatisme. Alors, j'ai pris mon petit Robert parce que j'étais un peu étonné de cette opposition. Et effectivement, la pragmatique, je vois que c'est... Ben voilà, c'est bien lié à l'action, hein, qui est adapté à l'action sur le réel, qui est susceptible d'applications pratiques qui concernent la vie courante. Mais, bon, la question que je me pose, c'est ne faut-il pas pour l'action une certaine forme d'idéologie ? Alors, idéologie, petit Robert, système philosophique qui, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, avait pour objet l'étude des idées, de leurs lois et de leur origine. Voilà, bon, mais je pense que c'est encore un abus de langage. Allez, salut !
Bonjour, je m'appelle Zora et j'ai un petit message à adresser aux Audois, tous les gens qui habitent près de Carcassonne. Je voulais leur dire que le mercredi 26 mai à 21h au foyer de Mackens, donc c'est la route de Limoux à Carcassonne, donc il y a un débat sur la Palestine, Palestine-Israël, qu'à l'avenir, avec Leila Chaïd, Michel Warchowski, qui est correspondant du Centre d'information alternatif, et Dominique Vidal du Monde Diplo. Donc venez nombreux, mercredi 26 mai à 21h à Mackens, au foyer de Mackens. À bientôt, au revoir.
Aujourd'hui, c'était la journée de la fraternité. Je m'y suis essayé. Je me suis promené avec ma canne blanche dans les rues de ma petite ville. Et j'ai dit bonjour aux gens, comme je fais fréquemment, je n'ai pas entendu aujourd'hui, pour dire bonjour aux gens, que je ne vois pas. Les gens me répondaient comme s'ils avaient exactement un œuf dans le cul. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tout est loué depuis Pâques. Point de suspension. Courage, courage.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil et Jean-Pierre Vernant.
Flight number 2, arriving from New York.
Vous allez y penser pendant une heure à cette chanson. Vous allez y penser pendant une heure. Entre sa création, il y a plus de 60 ans maintenant, et aujourd'hui, eh bien, malgré tout, l'esprit de résistance, l'esprit de prendre parti a réussi à subsister, à traverser le temps. Un homme qui peut réincarner cette traversée du temps, c'est Jean-Pierre Vernant, un historien, un psychologue, un philosophe, un spécialiste de la Grèce ancienne, professeur au Collège de France, un grand intellectuel, un grand scientifique, avec qui nous allons passer cette heure. Non pas sur le passé. Il est rare quand même qu'un homme arrivé à cet âge, 90 ans, soit aussi, non pas seulement alerte, mais alerté par son temps. Et c'est ce temps dont nous allons parler. Je crois que c'est Whitman, le poète américain, qui disait « Je suis une multitude ». Eh bien, Vernant est une multitude, 90 ans, plusieurs vies successives, plusieurs vies en même temps, et une cohérence. On est très heureux aujourd'hui de cette rencontre, d'écouter cet homme. Si là-bas, si j'y suis, était une ville, il y aurait l'avenue Pierre Vidal-Naquet, il y aurait la place Pierre Bourdieu et il y aurait le parc Corneille Castoriadis. Aujourd'hui, Jean-Pierre Vernant.
Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais. À Vichy, le président Laval et M. Darnan, secrétaire général au maintien de l'ordre, viennent s'incliner devant les corps de trois gardes du groupe mobile de réserve du Bourbonnais, tombés victimes de devoir en luttant contre les bandes communaux terroristes. À la violence, devait déclarer M. Darnan au nom du chef du gouvernement, nous répondrons par une répression juste mais implacable.
Bon, on y va.
Allons-y. Jean-Pierre Vernant, quand on s'était parlé au téléphone, me dit, moi j'ai le temps de vous voir, mais moi j'ai plus beaucoup de temps. Vous étiez très
c'est
prêt.
C'est vrai, en ce moment très peu. Comment vous dirais-je, pourquoi ? Quelquefois je me demande, mais pourquoi est-ce que je suis tellement sollicité par ce qu'on appelle les organes de presse, les grands outils de communication, alors que c'est à la fois parce que il y a des anniversaires, ça a été l'anniversaire du programme de la Résistance, l'anniversaire de l'armistice, l'appel du 18 juin, la libération de Toulouse le 19 août. Donc, et comme je dis, c'est parce que les moyens de communication ont horreur du vide, comme la plupart des gens qui ont joué un rôle dans ces événements sont morts, il ne reste que quelques malheureux vieillards comme moi, sur lesquels les journalistes se jettent comme des vautours pour leur manger le foie, comme l'aigle de Zeus à ce pauvre Prométhée.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire votre âge ? Vous dites un vieux comme moi.
Ben, 90 ans déjà, sonné. Ça fait pas mal. C'est beaucoup. Je dirais même que c'est beaucoup trop.
Pourquoi ?
Ben, parce que je trouve que c'est beaucoup trop.
Parce que vous en êtes à un moment où on a vécu plusieurs vies dans une vie. Et d'ailleurs, j'imagine que les journalistes qui s'adressent à vous parlent bien sûr au doc de professeur reconnu émérite de je ne sais combien d'universités, mais parlent aussi au chef de la résistance, mais parlent aussi aux militants, mais parlent aux communistes, mais parlent aussi à l'homme engagé.
Bien sûr, c'est vrai. Plusieurs vies successives ou coexistantes, plusieurs Vernants aussi. On s'aperçoit, quand on réfléchit, qu'on est toujours multiple, divisé entre le travail de réflexion scientifique sur la Grèce ancienne, l'actualité qui continue à vous travailler. Divisé aussi parce que, comme tout le monde, comme le monde aussi, on a en soi une partie qui est une partie de réflexion critique, d'effort pour essayer d'être lucide dans ses analyses concernant ce qu'on a vécu, ce qu'on a été, ce qu'on a fait, et aussi la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et en même temps, non pas s'opposant, mais différent, un aspect de fidélité à une forme de culture politique. Moi, j'étais dans une famille, mon grand-père avait fondé un journal dans les années 1880, à Provins, où je suis né, qui s'appelait Le Briard, et en dessous, il y avait écrit Journal Républicain. Et Républicain s'opposait à quoi ? Clérical. Il y avait un autre journal qui s'appelait L'Abri, et qui alors était le journal de la droite, et la grande bataille était la bataille cléricale. Et donc, je dis toujours qu'un type comme moi, qui par conséquent, quand il a 18 ans, se rattache à une tradition anticléricale, en même temps que socialisante ou, quand je suis arrivé au quartier, marxiste, tout cela a bougé. Et moi aussi, j'ai bougé.
Un homme de mouvement, un homme dans le mouvement, Jean-Pierre Vernant, donc né en 1914, donc il avait 20 ans en 1934, et 1934 a été un grand virage, un grand moment particulièrement crucial pour notre histoire, 1934. Ce qui marque sans doute notre époque aujourd'hui, notre aujourd'hui, c'est le sentiment d'impuissance. C'est que on s'est persuadé, on ne sait même pas qu'on est persuadé de notre totale impuissance sur notre devenir individuel et collectif. Le devenir individuel, peut-être, oui, qu'est-ce que vous faites pour les vacances? Mais au-delà, ben, on ne sait pas. Cette précarité générale dans laquelle nous nous trouvons, cet évanouissement du futur qui caractérise l'époque, fait que nous pensons que nous ne pouvons rien pour les choses, sur les choses, sur le temps, sur l'histoire, sur le devenir. Ça date pas d'hier. Une minorité, quelques hommes, quelques femmes, ici et là, pensent différemment, pensent qu'on peut quand même, les malgré tout. Jean-Pierre Vernant, à travers toute sa vie, son travail, son œuvre, son engagement, sa jubilation, montre que on peut résister et qu'on doit résister. Éloge de l'esprit de résistance.
Vous avez dit, il y avait plusieurs Vernant et la résistance m'a changé par rapport à ce que j'étais auparavant. Vous avez dit famille républicaine, laïque, et vous, votre engagement au PC et les études universitaires et d'agrégation de philosophie. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui vous étiez au moment de la résistance et de l'entrée en résistance?
Bah, écoutez, là, comment je suis arrivé? Je suis né en 14. Mon père était mort, donc, à la guerre, en 15. Ma mère était morte tout de suite après la guerre. Donc, on était, comme on dit, deux orphelins, élevés avec mes cousins, mon cousin et ma cousine. Pas malheureux, une enfance heureuse. J'ai fait toutes mes études au lycée Carnot. J'y suis entré en enfantine, la 11e. J'en suis sorti avec mes deux bacs. Et là, je suis parti à Louis-le-Grand, en Hippocagne. J'ai tout de suite vu que c'était pas là. Fait pour moi, c'était pas mon affaire, et en même temps je me suis inscrit à la faculté pour préparer la licence de philo, comme mon frère avait fait 2 ans auparavant. Quand je débarque au quartier latin, dans cette période de 31 jusqu'à 34, le quartier latin, il est dominé par ce qu'on appelle les ligues. Il y a des manifestations tous les jours au quartier latin.
Violentes aussi.
Assez violentes. Ils sont là et ils tiennent le quartier latin complètement. L'Action française, les jeunesses patriotes, les jeunes croix de feu qui sont pas terribles, les francistes qui sont des vrais fascistes qui font le salut hitlérien. Ils tiennent le quartier latin et les gens comme mon frère, moi et les copains que j'ai, c'est pas facile.
Ouais. C'est ou profil bas ou faut s'organiser, quoi.
On s'organise. Voilà. On s'organise, on prend beaucoup de coups sur la tête. C'était pas la terreur, mais c'était quand même une emprise très puissante. Et en plus, il y avait Mussolini, Franco, qui est sorti, et les nazis avant encore qui prennent le pouvoir. On est donc entouré d'États fascistes, et par conséquent, les fascistes considèrent que ça va tout seul, que la France aussi va y aller. Donc, comme il y a ça, viennent d'Europe centrale, de Roumanie, de Pologne et d'Allemagne, beaucoup d'émigrés. Ils sont juifs ou ils sont connus comme des gens de gauche ou d'extrême gauche. Ils viennent en France pour se réfugier. Et alors, ceux qui veulent entrer à la faculté de médecine sont chassés par les ligues. On criait « Abat la métèque, la France aux Français, abat les Juifs, ils viennent nous manger notre pain ». Mais c'était vraiment le quotidien de cela. Et ça m'a renforcé dans mon hostilité à l'égard de ce qui me paraissait évident, c'est-à-dire la haine de l'étranger, le chauvinisme le plus étroit et la glorification de la violence, la négation de l'humanité chez ceux qui ne sont pas exactement copie conforme de ce que vous estimez être le bon français moyen. Tout ça, c'est contre ça. Et si quand j'arrive au quartier latin, je suis plutôt comme ça, brigandiste, pacifiste, société des nations, socialisant. La vue de cela me radicalise, et en même temps que je commence à lire Marx, je pense que les communistes et l'Union soviétique ont représenté un rempart contre ce danger. Voilà pourquoi je deviens un militant communiste. Bien entendu, je me fourre le doigt dans l'œil dans des grandes largeurs sur ma conception du monde, conception d'un marxisme un peu simplifié. Mais à l'époque, d'avant-guerre, tous les communistes que j'ai connus chez les étudiants, on était quand même un certain nombre, dont beaucoup que j'ai retrouvés dans la résistance, l'essentiel pour nous, c'était l'antifascisme. Et le PC, là, français, et le Parti Socialiste aussi, les organisations syndicales, et la franc-maçonnerie, je pense, a dû jouer un rôle à peu près analogue, qui ont permis à la classe ouvrière française, ce qu'il y avait de mieux dans la classe ouvrière française, de s'élever, de quitter la production, de quitter la chaîne, pour venir dans les universités ouvrières, avoir des responsabilités, se mettre à lire, ouais, des lectures. Elles étaient préfabriquées, les lectures. Mais ils lisaient. Et d'avoir une espèce de vision du monde qui était plus large. Alors, bien entendu, cette formation, elle était unilatérale, mais ça n'empêche pas que ça a eu ce rôle, qui était un rôle pour écrémer, à partir du tout venant, de tout ce qu'il y avait, des éléments qui étaient capables de jouer un rôle et de réfléchir. Et en même temps, c'est vrai que c'était une entreprise, surtout après-guerre, je dis le mot comme je le pense, c'était intellectuellement une entreprise d'abrutissement complet, à tous égards. Mais dans cette période-là, d'avant-guerre, le PCF n'était pas ça encore. Dans les années 30, on n'était pas ça, et tout de même, les analyses de Marx nous permettaient en gros de comprendre ce qui se passait. Et le résultat de tout cela, de ce mélange d'erreurs, de changements non prévus, de partis pris, de points aveugles, je dis que c'est ça qui m'a permis, dès 40, de comprendre que Pétain allait jouer le rôle simplement d'un valet du nazisme allemand, qu'il était pris là, et que par conséquent, il fallait le rejeter dès le départ. Il n'était pas question de faire autre chose que de se battre contre la présence allemande et les nazis. Parce que même si Molotov serre la main de Ribbentrop ou si Staline envoie ses félicitations à Hitler et réciproquement, quand les nazis sont là, ce sont les nazis. Et par conséquent, on ne peut que se battre contre eux.
Notre pays traverse des jours qui compteront parmi les plus douloureux qu'il ait connus. excité par des propagandes étrangères, un trop grand nombre de ses enfants,
Maréchal Pétain,
sans scrupules, qui font régner chez nous un climat avant-coureur des pires désordres. Ceux qui poussent la France dans cette voie invoquent leur prétention de la libérer. Cette prétendue libération est le plus trompeur des mirages auxquels vous pourriez être tenté de céder. Ceux qui de loin vous lancent des consignes de désordre ne participent pas au risque qu'ils vous font courir. Ils voudraient entraîner la France dans une nouvelle aventure dont l'issue ne saurait être douteuse. Français, quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
Dès le départ, dès 40, dès que j'entends Pétain, je comprends que ce que j'appelle mon pays, ma France, ce que j'ai vécu, le Front populaire, ce grand mouvement populaire, quand elle était rassemblée, la France, les auberges de la jeunesse, les congés payés, quand on a vécu ça, eh ben c'est ça son pays. Quand on a vécu tous ces types qui n'avaient jamais eu de vacances et qui, avec leurs gosses, vont se flanquer dans la Manche, dans l'océan ou en Méditerranée, avec l'idée qu'on construit un monde qui est un monde meilleur. C'était ça, mon pays. C'était ça, c'est le 18e, c'est les Lumières, c'est tout ce coup que je vois absolument flanqué par terre, brisé. Et je me dis que bon, ben c'est pas vivable. Il n'y a pas de choix à faire, le choix il est fait. On ne peut pas vivre comme ça, c'est impossible. J'étais à Narbonne avec mon frère, qui était démobilisé en même temps que moi, ma belle-sœur et ma femme, et tout de suite on a commencé à faire des papillons qu'on collait sur les murs de Narbonne.
Qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus ?
Oh, il y en avait un qu'on a fait assez vite, qui devait être quelque chose comme « Si la France est par terre, c'est la faute à Hitler ». Son drapeau dans l'eau sale, c'est la faute à Laval.
Ouais.
Alors,
ouais.
Il y en avait un deuxième dont je suis fier aujourd'hui, parce que on en a fait d'autres, mais celui-là, je m'en souviens bien, parce qu'on a inondé Narbonne de machin où il y avait écrit « Vive l'Angleterre pour que vive la France ».
En 40.
C'est juste en juillet. Voilà, c'est plus dire, là, j'étais gaulliste.
Voilà.
Ça voulait dire que je me disais, et il a raison. Et là, tu l'as mes professeurs à Toulouse, de philo. Mon frère est nommé à Clermont-Ferrand en 40-41. Là, il est chargé d'une mission clandestine auprès des Aubrac. Il va chez les Aubrac avec un mot de passe. Et il s'aperçoit, ils se reconnaissent avec Lucie qui connaissait. Et Lucie lui demande tout de suite, et ton frère où il est? Et donc les Aubrac viennent me voir et me demandent d'accepter de prendre en main l'organisation paramilitaire du mouvement Libération Sud. J'accepte très joyeux. Alors, je dis souvent que une des choses essentielles de la résistance, ce qui me frappe, c'est que ces jeunes ou ces moins jeunes, ces femmes aussi, elles ont fait preuve de non seulement des vertus qu'on considère comme masculines, le courage, le dévouement, le sacrifice, mais d'un acharnement et surtout d'une modestie complète. Elles sont en avant, elles font un tas de choses et toujours elles ont tendance à se mettre en arrière, à considérer que c'est pas elles, que c'est pas fondamental.
À laisser la gloriole pour les hommes.
À laisser la gloriole pour les hommes pendant et après. Mais elles, ces gens-là venaient de partout. C'est-à-dire que les fractures dans la société française, les différentes Frances qui existaient, la France laïque, républicaine, socialiste, communiste, quand les communistes sont entrés à fond, après 41, à fond dans la résistance active. Alors, tout ça, ça venait de partout. Et donc, pour un type qui était comme moi, de formation, d'origine socialiste, anticléricale, progressiste et communiste avant-guerre. Et j'ai découvert, il y avait des types avec qui j'étais ami, qui étaient d'origine complètement différente, qui venaient de la droite française, la plus pure et la plus dure, l'Action française.
Ah oui.
J'en avais. Il y avait surtout des militants catholiques, syndicaux, intellectuels. Et par conséquent, moi, j'ai changé à leur contact, parce que je ne les voyais plus de la même façon. Je les voyais agir, je voyais la force qui était en eux, je rattachais cette force à l'ensemble de leur personnalité, et par conséquent, ça m'ouvrait une fenêtre sur un univers spirituel, et aussi sur une formation religieuse, sur des milieux, qui pour moi étaient en dehors, et dont je me sentais à bien des égards proches. Et au fond, j'ai dit quelquefois, oh ben la résistance, c'est devenu comme une espèce de famille pour ceux qui étaient vraiment engagés à fond. Comme une famille, en famille, on est plus ou moins fâché, quelquefois on a des litiges, mais enfin, on s'embrasse. Il y a quelque chose qui est profond, qui vous relie, c'est le fait qu'il y a un socle commun. Et ça a été ça aussi. Et c'est fort. Quand je vois un type dont je sais qu'il a été actif dans la résistance, j'ai l'impression qu'on est lié, entre nous, il y a quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas couper.
Amis, entends-tu les cris sourds du pays, on l'enchaîne. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Oh, 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 oh.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans la résistance? Quel est le phénomène, à mes yeux, le plus extraordinaire? C'est le fait que un tas de gens, d'hommes et de femmes, qui, s'il n'y avait pas eu cette épreuve terrible, auraient eu des vies moyennes, comme tout le monde, médiocres. Ils auraient été un bon cheminot, ou un bon commerçant ou industriel, ou un bon prolo travaillant dans une usine d'aviation. Bon épicier, bon père de famille, brave, gentil. Mais moyens, se sont révélés des personnalités incroyables. Par le courage et ensuite par la capacité de voir ce qu'il faut faire, d'avoir une vision générale. Un tas de gens comme ça sont sortis, qui sinon seraient restés tout à fait anonymes.
On est presque jaloux, hein. On l'a été dans les années 60, exactement de ce dont parle Jean-Pierre Vernant, de ce que la résistance avait constitué d'aventures, d'occasions extraordinaires de se dépasser soi-même. Je pense à la génération de 68 qui s'est largement inspirée et qui a presque voulu couper avec cet esprit de la résistance. Mais on sait comment quand l'histoire repasse les plats, quand elle repasse les plats, c'est sous forme de farce le plus souvent et ceux qui ont cru franchir une montagne, on le disait l'autre jour, n'ont en fait fait qu'enjamber un pli. Je parle de 68. Mais l'esprit de résistance, il y a esprit de résistance constant dans l'œuvre et la pensée de Jean-Pierre Vernant, c'est bien à cause de cette jubilation qui est due au dépassement de soi-même. On passe donc cette heure qui va être évidemment trop brève avec cet homme dont Pierre Vidal-Naquet disait qu'il était un maître de liberté dont l'enseignement est proprement universel.
Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste, sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques, relevant non d'une doctrine politique, mais de l'aventurisme, dont ont toujours fait preuve, malgré leurs protestations, les dirigeants du Parti communiste, auquel on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement, avec son bon sens et son expérience habituelle, le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber ?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà, dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur, sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
C'est vrai que beaucoup de gens ont été pro-Vichy. C'est vrai que la majorité des gens n'étaient rien d'autre que qu'on nous foute la paix, je vais essayer de nourrir ma famille, pas d'histoire, et je me tiens tranquille.
Et si les autres ont des problèmes, surtout ne pas bouger.
Oui, oui, jusqu'à un certain temps. Voilà. Mais une partie aussi qui a dit non, ça marche pas. Ça marche pas. Il y avait donc un état d'esprit qui n'était pas des... On pouvait faire. Voilà. Il y avait des complicités.
Et pendant ce temps-là, vous étiez présenté, vous et les autres, comme des terroristes.
Oh ben, bien sûr, ben, j'étais présenté comme des terroristes. Alors voilà, comme des terroristes, et quand on dit ça, est-ce que c'est la même chose qu'aujourd'hui ? En partie oui, en partie non. C'est pas un problème. En partie oui, parce que il y a terrorisme quand un groupe de gens sont unis pour la défense ou de leur identité nationale ou de leur position sociale et politique en présence d'une force armée beaucoup plus grande. Il ne peut pas y avoir un affrontement en terrain plat. Donc, le terrorisme, c'est la façon dont un groupe représentatif d'une idéologie, d'une conviction ou d'un État qui était maintenu sous l'occupation se défend avec une disproportion de force écrasante. Mais, d'abord, on attaquait l'armée allemande, les convois allemands, pas chemin de fer ou sur route. Il est arrivé au PC de donner des consignes que, pour ma part, je n'ai jamais appréciées ni acceptées. À chacun son Bosch. D'abord parce que Bosch est un mot que je haïssais. C'était pas des Bosch qu'on avait devant nous. Ce qu'on combattait, c'est pour moi, c'était les Allemands, mais c'était les nazis. Le hasard a fait qu'il y avait avec moi, dès le début, deux Allemands. Ils n'étaient pas boches. Quand j'ai fait leur connaissance au début de la résistance, il y avait deux Allemands qui étaient des antifascistes qui avaient été en Espagne, Lys, de Hambourg. Alors à chacun son boche, non. On ne tire pas sur n'importe qui. Ça n'empêche pas que quand on fait sauter un train, ou comme à Toulouse, il y a eu un tramway, je pourrais d'Allemands, il y a sûrement là-dedans des Allemands qui peut-être n'étaient pas des monstres. Mais c'est la guerre. Quand on fait la guerre, c'est comme ça. Mais on poussait assez loin ce scrupule en ce qui nous concernait. Je me souviens qu'à un moment, on avait répandu un texte, des schémas sur la façon de placer le plastique quand on venait faire sauter les rails.
Le mode d'emploi du poseur de bombes.
Le mode d'emploi. Où on expliquait pourquoi. Parce que les trains, qui étaient des trains allemands, de matériel allemand ou de personnel allemand, qu'on les faisait sauter au passage du train, il y avait un cheminot français qui conduisait. Et on avait trouvé un système, et on expliquait ça, pour que le train ne déraille qu'après le passage de la locomotive. Pour que le cheminot qui était là, il n'ait plus de chance de s'en sortir. Donc,
les soucis étaient poussés loin, quoi.
C'était un souci légitime, d'autant que les cheminots étaient des combattants comme nous. Donc, ce mot terroriste, qu'on nous mettait sur le dos, et qu'on acceptait, bon, très bien, ça ne nous gênait pas du tout, impliquait plutôt cette espèce de statut de combattant illégal. Mais bon, on était quand même des terroristes. Alors, les terroristes, on les prend, on les torture, pour qu'ils avouent tout ce qu'on veut, et puis on les liquide ou on les envoie mourir au camp quand ils en tirent. Il y a des questions de chance étonnantes. question de chance et de rapidité, parce que puis t'arrivais d'être suivi, moi en vélo, eux en bagnole, par la Gestapo, avec un des types, on l'appelait Renard, qui était passé aux Allemands, et qui circulait dans Toulouse, en indiquant les gens qui étaient des résistants. Ça n'a pas été facile. Je peux dire que ça s'est joué à 2 minutes. Je ne sais pas trop. Je n'aime pas parler de ça, parce que ouais. Il y en a tellement qui sont restés qu'on a toujours une espèce de sentiment d'injustice ou de presque de culpabilité d'en être sorti.
Ouais, pourquoi
moi, oui, pourquoi moi et pourquoi un tel. C'est comme ça.
1944, le 19 août, dans Toulouse résistante, capitale d'Occitanie, l'ombre sinistre de la croix gammée, symbole de crime, commence à s'éclipser devant la splendeur sacrée de la croix de Lorraine.
Je pense, un jour, on m'a posé la question si ce que j'avais écrit sur l'Iliade, c'est ce que un papier, la mort héroïque et la cadavre outragée, n'avait pas été influencé. Oh, au début, j'ai dit, oh, mais non. Et puis après, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, non, mais c'est évidence que quelqu'un qui a vécu ça, qui a vécu avec, pendant longtemps, 3 ans, l'idée que la mort est là, derrière toi, toujours, et avec les jeunes qui sont là avec toi, et elle tape là, et que ça, c'est quelque chose que après tu essayes d'oublier, mais qui, quand tu lis l'Iliade, te fait comprendre autrement ce que tu aurais lu si tu n'avais pas vécu ça. C'est sûr.
Ça vous parle autrement, quoi.
Ça parle autrement, c'est-à-dire, c'est l'idée que il y a un passage dans l'Iliade où Achille, furieux contre Agamemnon, on lui dit à peu près, oui, toi tu es le plus roi de tous, tu es le roi des rois, mais tu ne sais pas ce que c'est que de risquer sa psyché, sa vie, son souffle vital à tout moment, au premier rang. Et alors, il y a l'honneur, il y a les honneurs ordinaires qui sont dus aux gens en fonction de leur naissance. Et puis il y a un honneur différent, une team, une place, une façon d'être regardé par les autres à part, qui est quand tu as fait ça. C'est-à-dire les situations qui sont celles du tout ou rien, où il n'y a pas de demi-mesure, d'accommodement. Et le choix que tu fais en 40 de la résistance, il est de ce type. Tu n'en fais pas, parce que ce n'est pas un choix. Mais tu sais qu'il n'y a pas de compromis. Tu y vas et tu sais qu'en y allant, tu te trouves sur un terrain où ça tombe. Et que c'est ça qui donne le sens à ton existence. Et tu le fais quand même parce que tu t'aperçois que dans ce qu'on appelle le vivre, avoir une femme, une fille, ce qui était mon cas à ce moment-là, des amis, le bonheur que le monde peut t'offrir, que cette vie en même temps ne peut être vraiment vécue que s'il y a en elle quelque chose qui la dépasse. Et quand ce quelque chose qui la dépasse, qui fait qu'elle prend un sens, est nié, à ce moment-là, le choix est fait pour toi, tu sais qu'il faut y aller, tout ou rien. Et ça, je crois que c'était quand même le sentiment qu'avaient tous les gens dans la résistance.
Mais Jean-Pierre Vernant, est-ce que ça, c'est le compagnonnage d'armes, ou c'est quelque chose de plus que simplement le fait d'être de cette battue côte à côte?
Pas seulement compagnon d'armes, mais étant donné les conditions même de la lutte, la pression psychologique était terriblement dure. Bon, les types étaient pris. Quand ils étaient pris, ils n'étaient pas seulement pris, ils étaient souvent torturés, frappés. Ça marque de savoir que les gens qu'on a connus ont subi ça. Et alors, les conditions particulières faisaient que nous étions tous des volontaires. On n'était pas mobilisés comme là. Les types dans les tranchées, ils faisaient partie d'un régiment, le régiment part et ils suivent. Là, on était tous des volontaires et par conséquent, à l'intérieur même de ce combat, il y avait forcément l'idée d'un avenir de la France qu'on était en train de bâtir. On flanquait les Allemands dehors, bien sûr. On a balayé Vichy, mais qu'est-ce qu'on allait faire ? La voie était libre et on allait faire une France qui ne serait pas la même que celle de la Troisième République.
Mais moi j'ai encore du mal à comprendre, Jean-Pierre Vernant, ce que vous racontez, c'est-à-dire le tout ou rien, la lutte au quotidien, oui. le risque au quotidien, et en même temps, ou en tout cas conjointement à ça, préparer l'avenir, penser à l'avenir,
non,
comment...
On ne prépare pas, là. Ça c'était le conseil de la résistance. Ça a été le travail de Moulin, la politique que de Gaulle a menée, de rassembler des représentants des anciens partis, des forces syndicales et des mouvements de résistance, et de mettre sur pied un programme. Dans ce programme, je crois, justement, ce qu'il y a d'intéressant dans ce programme...
Le programme du CNR, non ?
Dans le programme du CNR... C'est que c'était pas seulement l'indépendance nationale, c'était l'édification d'une France, d'une patrie qui était plus fraternelle, où la liberté. À ce moment-là, moi je pensais que dans toute l'Europe, l'attachement à sa patrie et à l'indépendance de la patrie, le refus d'être occupé ou subordonné à un autre État, elle allait être liée à la volonté que cette patrie soit en même temps socialement plus juste, plus fraternelle. Et c'est ça, à mon avis, qu'incarnait le programme de la résistance. C'est toujours l'idée que, bon, la France avait été auparavant une république, on avait fait des pas en avant avec les lois sociales, les 40 heures, les congés payés, mais qu'il fallait continuer, qu'il fallait que cette France, il y a dans cette France... un État qui soit en même temps pas du tout une force oppressive, qui soit la représentation de ce que le peuple aurait décidé à travers la libre expression de ses choix, et que cet État avait un devoir non seulement de veiller à la défense nationale, à la police intérieure, mais de veiller aussi à une répartition équitable de ce qui a été produit par l'industrie et le commerce, qui est une espèce de rôle d'arbitre de cet État dans tous les conflits qui ne pouvaient pas cesser entre le patronat et les employés qui avaient des intérêts divergents, pour que s'il y avait progrès économique, que s'il y avait création de richesses, il y ait toujours la possibilité que l'État intervienne comme souverain répartiteur de ce qui est juste.
Né de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne, sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité.
Le problème, c'est que les conditions aujourd'hui, que les nations ne sont plus, n'ont plus cette capacité de direction complètement complète de leur économie, que le marché mondial fait que ça échappe à un contrôle et à un jugement, que d'autre part, les nécessités de la concurrence du marché font que, ou bien on délocalise les industries, ou bien on s'oppose à un relèvement des salaires, que les charges de la sécurité sociale sont plus grandes. Mais, tout ça est vrai. Mais un vieux type comme moi, il a tendance à dire tout de même ce qu'on est arrivé à faire au moment où la France était ruinée. Ruinée à la fois parce que pendant ces 4 années, elle avait nourri l'industrie allemande, l'armée allemande, l'effort de guerre allemand. Elle était ruinée par les bombardements qui avaient eu lieu. Et par conséquent, on partait de zéro. Et qu'on a quand même pu faire des lois sociales qui ont fonctionné. Une sécurité sociale, des retraites vieillesse. Alors, comment se fait-il que, au moment où on était si pauvre, d'une certaine façon, mais où on reconstruisait, on y soit arrivé ou maintenant. Tout de même, la richesse est beaucoup plus grande. Mais où en même temps, il s'est créé quelque chose de différent avec le chômage. C'était même précarisation, alors que dans l'ensemble, ça marche quand même à peu près. Alors, je suis obligé de m'interroger, de me demander quelle solution pour que l'État français, à l'intérieur de cette Europe, et peut-être en utilisant cette Europe, j'en sais rien, mais c'est ce qui devrait être.
C'est ce que voulaient en tout cas
les gens du programme de la résistance et du reste. Bien sûr que oui. Mais c'est bien joli cette Europe. Oui, on va plus massacrer. Comment ? Ce ne soit pas seulement la monnaie, le commerce, les règles frontalières, mais pas seulement non plus la création sur le plan intellectuel et scientifique d'une communauté, mais le moins, c'est qu'en même temps, elle ne prend pas en main cette espèce d'effort qu'avaient voulu faire les gens de la résistance avec leur programme, c'est-à-dire jouer un rôle de contrôle pour que ce ne soient pas les flux anonymes des intérêts boursiers, la hausse du pétrole ou sa baisse. Et le seul critère de la validité, est-ce que c'est rentable ?
La guerre économique, on appelle ça.
La guerre économique est le critère de rentabilité. Mais pour ma part, je reste convaincu que dans une société du 21e siècle, pour les chemins de fer, pour d'autres, la poste, il n'y a pas que la rentabilité. Bien entendu, la poste doit se débrouiller pour ne pas perdre d'argent, pour en perdre le moins possible. Mais la notion de service public, c'est-à-dire l'idée que les gens, avec leurs impôts, avec leur travail, tout ce qu'ils ne peuvent pas régler, bon, oui, la communication, la poste, la médecine, le transport, que tout ça, c'est une responsabilité de la collectivité incarnée par l'État qui l'a en charge. Et que, par conséquent, dire « Oh, on supprime une gare parce que c'est pas rentable », non, la gare, elle est pas là pour être rentable, elle est là pour desservir un pays, et que les gens, jeunes et vieux qui sont là, doivent pouvoir utiliser le chemin de fer et pas le voir passer devant leur nez sous prétexte qu'ils ne rapportent pas assez d'argent. Voilà, c'est mon point de vue. Point de vue dont beaucoup diront qu'il est d'un vieux type utopiste. Bon, bien sûr, mais que je considère quand même comme un élément fondamental de ce que l'avenir doit nous préparer. Là-dessus, je me tais, d'ailleurs, déjà beaucoup trop parlé.
Le vieux type utopiste qui nous a parlé pendant une heure, c'est Jean-Pierre Vernant, 90 ans aujourd'hui. Et voilà comment on passe de la Grèce antique à des questions immédiates sur la sécurité sociale, sur la place de l'État, sur la répartition. Ce n'est pas parce que l'homme a réussi à conquérir sa liberté qu'il fait un bon usage de la liberté qu'il a conquise. C'est à peu près ce que nous disait il y a déjà quelques années Cornelius Castoriadis, nourri des mêmes racines grecques et la latine et la judéo-chrétienne. C'est tout ça qui passe à travers l'esprit, le souffle et l'écriture de Jean-Pierre Vernant. Pour prolonger cette heure, l'univers des dieux, les hommes, récits grecs des origines au seuil, mythes et sociétés en Grèce ancienne à la découverte, et beaucoup de d'autres ouvrages de Jean-Pierre Vernant sur le site là-bas si j'y suis. Allez sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Éric Gérard et Olivier Ruyotor, Coyenne Guyenne, Christophe Imbert et Pascal Pascariello. C'est l'équipe. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. C'était un reportage de Guy Vanctil et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve demain à 17h pour la Basse où j'y suis, le journal Delphine Simon. Salut!